Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, l'État islamique semble plus que jamais déterminé à occuper le devant de la scène. À J-1 du départ des Américains, l'organisation terroriste revendique les tirs de roquettes interceptés ce matin par les États-Unis au-dessus de Kaboul. Jeudi, elle a réussi à tuer plus d'une centaine de personnes dans un attentat aux abords de l'aéroport de la capitale. Le groupe djihadiste a démontré à plusieurs reprises sa capacité à croître dans les situations d'instabilité. On se souvient évidemment de l'Irak et de la Syrie, où il a réussi pendant un temps à instaurer un califat. Alors la crise afghane va-t-elle renforcer l'État islamique? Quel rôle l'organisation entend-elle jouer en Afghanistan et quelle est sa stratégie? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Et nous sommes en ligne avec Matteo Puxton, agrégé d'histoire et spécialiste de la propagande militaire de l'État islamique. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir.
Muriel Paradon est également à mes côtés en studio. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service international de RFI. Vous revenez justement de Syrie où vous avez suivi les traces des djihadistes et anciens combattants de l'État islamique. Votre témoignage nous sera précieux. Mais d'abord une première question pour vous, Matteo Puxton, pour revenir d'abord sur ces roquettes tirées ce matin par l'État islamique et sur l'attentat de jeudi dernier à l'aéroport. Quel est le message que l'organisation terroriste souhaite faire passer ?
Alors le message, c'est montrer que l'État islamique conserve des capacités en Afghanistan malgré la prise du pouvoir par les talibans. Et à Kaboul, de fait, les cellules de l'OI sont très actives depuis 2016 et elles disposent d'une palette de moyens qui leur permettent de frapper des endroits critiques comme l'aéroport de Kaboul. Et c'est montré que les talibans ne sont pas capables justement d'assurer la sécurité dans la capitale afghane.
Alors là justement, Matteo Puxton, c'est la branche afghane de l'État islamique qui est à la manœuvre, l'EIKA, l'État islamique au Khorasan. Depuis quand cette branche est-elle présente en Afghanistan et comment s'est-elle implantée dans le pays ?
Alors c'est une branche qui existe depuis les derniers mois de 2014 et officiellement en janvier 2015, quand l'EI accepte l'allégeance de ceux qui ont rallié l'État islamique donc en Afghanistan. Essentiellement au début, ce sont d'anciens talibans pakistanais qui ont rallié l'État islamique après avoir été chassés du Pakistan et qui s'étaient installés dans l'est de l'Afghanistan, dans les provinces de Nangarhar, qui est au sud-est de l'Afghanistan, et la province du Kunar, qui est un peu plus au nord. Les membres de l'État islamique aussi, ce sont d'anciens talibans afghans qui vont rallier l'État islamique pour des raisons qui sont parfois idéologiques ou alors parce qu'il y a des conflits internes aussi dans les talibans afghans et certains préfèrent donc rejoindre à ce moment-là l'État islamique. C'est le cas de Kari Ekmat, qui est un cadre ouzbek des talibans afghans et qui va rallier l'État islamique dans la province de Jozan, donc qui est cette fois au nord de l'Afghanistan. Ce qui fait que l'État islamique au Khorasan a une base territoriale qui va durer jusqu'en 2018-2020, puisqu'à partir de 2018-2020, en fait, les talibans vont éradiquer cette présence territoriale, d'abord dans le nord, dans la province de Jozan dont je parlais tout à l'heure, et en 2019-2020, donc les dernières enclaves de l'État islamique au Nangarhar et au Kunar, ces provinces de l'Est, vont être éliminées par les talibans après avoir déjà dû affronter des offensives de l'armée afghane soutenues par les États-Unis et aussi des révoltes des populations locales qui avaient été encadrées par le gouvernement afghan.
Aujourd'hui, Matteo Puxton, l'EIKA, l'État islamique au Khorasan, il est toujours dans une démarche de conquête territoriale au sein du territoire afghan ou est-ce qu'il commet simplement, entre guillemets, des attentats comme on a pu le voir ces derniers jours ?
Alors effectivement, à partir de mars 2020, il est privé de base territoriale. Donc il va basculer en fait dans le terrorisme urbain, notamment à Jalalabad, la capitale du Nangarhar, et à Kaboul, où il est installé depuis longtemps. Et le nouveau chef de la branche, Shahab al-Muajir, c'est lui qui va réorganiser en fait cet effort-là. Il va relancer l'activité de propagande, il va faire en sorte de mener des attaques spectaculaires à Kaboul et à Jalalabad. La plus connue, c'est celle qui a lieu en août 2020 contre la prison de Jalalabad, qui fait sortir plusieurs centaines de djihadistes de l'EI qui étaient emprisonnés. Et à partir du début de cette année, donc de 2021, ce chef va relancer l'activité de cellules ailleurs. Donc, on va avoir des cellules de l'EI qui vont s'activer à Kunduz dans le nord, à Herat dans l'ouest de l'Afghanistan, et qui vont viser, par exemple, les pylônes électriques et les camions-citernes de carburant pour affaiblir le gouvernement afghan.
Alors, on comprend bien, effectivement, en vous écoutant, que l'État islamique a finalement su conserver une capacité de nuisance, en tout cas en Afghanistan. Je me tourne vers vous, Muriel Paradon. Qu'en est-il en Syrie, notamment à Raqqa, où vous vous êtes rendu, Raqqa qui, on le rappelle, l'ancienne capitale du califat?
Alors, oui, Raqqa, en effet, qui a été capitale d'un califat fantoche entre 2014 et 2017. Quand on s'y est rendu, il y a quelques jours, avec Boris Vichit, eh bien, on a trouvé une ville meurtrie. La moitié des bâtiments sont encore détruits par les tirs, des bombardements de la coalition internationale et puis et qui ont aidé les Kurdes à se débarrasser de l'État islamique. Les gens sont traumatisés. Ils se rappellent très bien des exactions commises par les djihadistes qui ont fait régner la terreur durant ces 3 années dans cette ville. Ils se rappellent des décapitations, place El Naïm dans le centre de Raqqa. Alors, cette place où ce rond-point, plus ou moins, a retrouvé la vie avec ses commerces aujourd'hui, ses embouteillages. Mais la population vit très difficilement. Il y a une grave crise économique, une inflation galopante, une grande sécheresse aussi qui a touché l'agriculture. Du coup, les gens se plaignent beaucoup de leurs conditions de vie. Et certains, on l'a entendu assez souvent, disent finalement c'était mieux sous l'État islamique, évidemment pas à cause des exactions, mais économiquement. Certains en veulent au conseil municipal géré par les Kurdes de ne pas bien gérer les choses. Il y a des tensions entre les Kurdes et la population à Raqqa qui a majorité arabe. Et tout cela, bien sûr, fait le jeu des terroristes. Quand on se promène dans certains quartiers, des gens nous ont mis en garde en disant « Attention, ne vous baladez pas dans ce quartier, il y a encore beaucoup de gens qui ont des opinions très proches de l'État islamique. » Et puis, il y a des cellules dormantes autour de Raqqa. C'est ce que nous a confirmé un porte-parole des forces démocratiques syriennes. Donc, les traces de l'État islamique sont toujours là à Raqqa.
Et justement, on va l'écouter, ce porte-parole des forces démocratiques syriennes. Il s'appelle Abdulaziz Younis et il est porte-parole donc des FDS dans la région de l'Euphrate autour de Raqqa.
À la fin de l'opération à Barouz, l'État islamique a été vaincu géographiquement. Mais maintenant, la tâche la plus importante pour les forces démocratiques syriennes est de se débarrasser des restes de l'État islamique et des cellules dormantes. La coalition internationale ne nous a pas soutenus autant qu'on l'espérait. Elle s'est désengagée de ses obligations. Et puis il y a eu aussi l'intervention turque autour de Ras Al Ain, Tel Abyad et ailleurs. Tout cela a contribué à développer les cellules dormantes de l'État islamique.
Matteo Buxton, ces cellules dormantes de l'État islamique que l'on retrouve en Syrie, est-ce qu'elles sont également présentes en Afghanistan et notamment à Kaboul, la capitale ?
Alors, à Kaboul, elles sont pas si dormantes que ça, puisqu'en réalité, l'État islamique commence à développer un réseau urbain de cellules à Kaboul dès 2015. Donc, c'est assez tôt, en fait. C'est quasiment dans les mois qui suivent l'allégeance à l'État islamique. Alors, par contre, les attaques massives se développent beaucoup à partir de 2016. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir de l'année dernière, quand l'État islamique perd son territoire, il va accentuer ces attaques de terrorisme urbain. Donc aujourd'hui encore, on voit bien que l'État islamique dispose d'effectifs importants, plusieurs centaines de combattants probablement qui sont à Kaboul et avec une palette de moyens extraordinairement variés. On a vu le kamikaze jeudi, on a vu ce matin le tir de roquettes, avec ces roquettes qui sont montées à l'arrière de voitures, donc qui sont très faciles à utiliser. Mais on n'a pas encore vu, par exemple, les tirs de mortier que l'État islamique a souvent utilisé à Kaboul ou à Jalalabad, et puis les voitures piégées. Donc ça, c'est des moyens d'action qu'on pourrait voir intervenir encore dans les prochains jours.
Et qu'est-ce qu'on sait des liens qui unissent l'État islamique au Khorasan, au commandement central de l'État islamique en Syrie et en Irak ?
Eh bien, ils sont très forts, puisque l'État islamique central a envoyé plusieurs délégations depuis la Syrie et l'Irak jusqu'en Afghanistan, et notamment pour encadrer la naissance de cette branche-là. Et quand il y a eu des problèmes aussi de commandement, quand il a fallu remplacer des commandants ou qu'il y avait des commandants tués et qu'il a fallu nommer de nouveaux chefs, plusieurs délégations sont venues depuis 2015. Elles sont venues en Afghanistan. Par ailleurs, la propagande centrale de l'État islamique est très bien reliée à cette branche Khorasan. Et il y a des contenus donc qui sont diffusés hein, depuis 2015 et encore cette année. Donc on voit bien, avant la prise de l'Afghanistan par les talibans, l'année dernière, il y a encore une grosse vidéo de propagande.
Alors on est en train de perdre Matteo Paxton. Excusez-nous, on est en train de perdre la liaison téléphonique avec vous. On va tenter de la récupérer. Je voudrais qu'on revienne, Muriel Paradon, sur une autre problématique qui montre, qui rejoint ce que disait Matteo Paxton à l'instant et qui nous montre bien que l'État islamique est loin d'avoir été éradiqué, c'est la problématique des camps djihadistes de l'État islamique en Syrie. Vous, lors de votre séjour, vous avez visité deux camps où s'entassent d'anciens combattants, des épouses aussi de djihadistes, des enfants, notamment le camp de Roj, c'est dans le nord-est. Et vous me disiez tout à l'heure, ce qui vous a particulièrement frappé, c'est le nombre de nationalités présentes dans ce camp.
Oui, le camp de Roj, où effectivement, c'est assez frappant quand on se promène à l'intérieur. Ça ressemble à un camp de réfugiés hein, avec des tentes, voilà, dans des conditions assez précaires. On voit des enfants blonds se balader à côté d'enfants asiatiques. Et effectivement, la garde kurde qui était avec nous nous a dit mais il y a 40 nationalités. Donc c'est assez effarant de voir à quel point le califat autoproclamé de l'État islamique a attiré autant d'étrangers. On a rencontré là-bas des Françaises, hein, puisque dans ce camp n'abrite que des femmes et des enfants de djihadistes, qui pour certaines ont gardé intacte leur idéologie et leur attachement au califat. Elles ne veulent pas être rapatriés en France, de peur d'être jetés en prison et d'être séparés de leurs enfants. Alors de toute façon, les autorités françaises ne veulent pas les rapatrier, elles sont jugées trop dangereuses et elles ne rapatrient pour l'instant que des enfants au cas par cas, lorsqu'ils posent problème parce que les Kurdes, hein, la région autonome kurde qui gère ces camps n'a pas les moyens de les gérer correctement, pas les moyens non plus de juger ces personnes. Ce n'est pas un État, on n'est pas dans le gouvernement syrien. Et donc ces personnes, ces djihadistes ou ces familles posent un problème, rapatriement ou pas, c'est une question humanitaire et juridique également.
L'autre camp où vous êtes allé, Muriel Paradon, c'est Al-Hol, un camp particulièrement explosif. On peut même dire que ce camp, c'est un peu une bombe à retardement djihadiste.
Oui, absolument. 60 000 personnes vivent dans ce camp. C'est une véritable ville. Majoritairement des Syriens et des Irakiens qui vivent dans des conditions très dures d'un point de vue sanitaire et sécuritaire. Il y a une femme qui nous disait, alors toutes les femmes sont en noir, hein, voilées des pieds à la tête. Une femme nous disait que son mari avait été tué parce qu'il avait été nommé par les gardes kurdes comme gardien d'un petit magasin. Il avait été accusé de traîtrise, donc il a été tout simplement supprimé. Et nous, avec Boris Vichich, on n'a même pas pu pénétrer très loin dans le camp parce qu'on nous l'a interdit en nous disant c'est trop dangereux, il y a des meurtres tous les jours. Les femmes que nous avons rencontrées étaient assez désespérées, parlaient de leurs enfants qui n'ont rien à faire dans le camp, qui sont en colère, qui sont violents, qui peuvent donc facilement être récupérés puisqu'il y a effectivement des cellules du djihadiste, il y a des hommes aussi dans ce camp de Al-Hol qui se recréent et tout cela avec beaucoup d'inquiétudes hein, de la part des Kurdes qui réclament eh bien, de trouver une solution. Alors, il faut savoir qu'il y a des rapatriements qui se font hein, vers l'Irak et aussi vers la Syrie. À Raqqa, on a rencontré des chefs de tribus qui se portent garants pour leurs familles. Alors, ce sont des djihadistes qui ont collaboré. Hein, ce ne sont pas forcément des commandants djihadistes qui, eux, sont en prison, hein, dans des prisons bien gardées. Mais on voit qu'on essaye de désengorger ce camp avant qu'il n'explose. Et puis, il y a aussi des évasions. Il suffit de payer quelques milliers de dollars pour partir de ce camp. Donc, on voit que c'est très explosif, que l'État islamique se recrée dans ce camp et que les personnes qui s'y trouvent sont effectivement à la merci des djihadistes.
Alors, on a récupéré la liaison avec Matteo Paxton. Matteo Paxton, je ne sais pas si vous avez entendu l'intégralité du propos de Muriel Paradon, mais qui nous parlait notamment du problème de radicalisation dans les camps en Syrie qui accueillent des djihadistes ou d'anciens combattants de l'État islamique. Quand on écoutait son témoignage, on se dit finalement, l'État islamique dans les prochains mois, les prochaines années, ne peut que gagner en puissance. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Que dit finalement la propagande de l'État islamique sur ses intentions en Afghanistan ?
Alors, en Afghanistan, la stratégie, effectivement, c'est de tenir le plus longtemps possible et de profiter des opportunités qui vont se présenter. Sachant que les talibans donc contrôlent le pays, l'État islamique aura des opportunités pour se développer et peut-être espère un jour récupérer peut-être une enclave territoriale comme celle qu'il a eue à sa naissance en 2015, par exemple.
Et est-ce que l'État islamique communique de façon uniforme ? Est-ce que le commandement central de l'État islamique est le seul à communiquer sur ses intentions en Afghanistan ? Ou est-ce qu'il y a des communications en parallèle de la part de l'État islamique au Khorasan ?
Alors oui, tout à fait, c'est une communication qui est double. Vous avez ce que la propagande centrale de l'État islamique produit, et à côté, effectivement, il y a la communication un peu plus locale que fait la branche elle-même, à destination du public afghan et pakistanais surtout. Et donc, juste après l'attentat de Kaboul, donc un des cadres importants de la branche a diffusé un texte donc où il explique clairement que l'État islamique est bien séparé des talibans, hein, donc il y a bien conflit entre les deux organisations, que l'État islamique donc n'est pas un faire-valoir des Américains qui sont sur le départ et qui sous-traiteraient entre guillemets la gestion voilà de l'État islamique aux talibans. Donc l'État islamique réaffirme très nettement ses intentions et dénonce aussi toute collusion avec certaines branches, par exemple des talibans, comme on a pu le lire depuis quelques jours.
Alors justement, vous le disiez à l'instant, Matteo Paxton, on est à J-1 de la fin des évacuations d'Afghanistan, des évacuations orchestrées par l'Occident. Des négociations entre talibans et occidentaux sont en cours, notamment avec la France. Je voudrais que vous réagissiez à cet extrait qu'on va entendre à l'instant. C'est un extrait de l'interview qu'a accordé à nos confrères de France 24 le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid.
Cela ne fait aucun doute. La France est un pays très important pour nous. Nous voulons avoir de bonnes relations avec les Français. L'avenir que nous voulons pour l'Afghanistan est un avenir où notre pays sera partenaire de la communauté internationale. Et nous comptons particulièrement sur nos relations diplomatiques et d'amitié avec la France. Nous voulons avoir des relations diplomatiques avec le gouvernement français en vertu des lois internationales, comme les pays normaux. Nous assurerons la sécurité des ressortissants français comme des représentations diplomatiques.
Voilà, on assiste aujourd'hui à un rapprochement qui est presque contre nature entre les talibans et les Français et plus largement les Occidentaux. Ces négociations en cours, Matteo Paxton, est-ce qu'elles ne sont pas finalement une aubaine pour l'État islamique ? Est-ce que ce rapprochement taliban-occident ne va pas servir la propagande de l'EI ?
Tout à fait, hein. L'État islamique compte dessus de toute façon, puisqu'il qualifie les talibans d'apostats. Hein, c'est-à-dire
alors visiblement
de la pratique de l'islam. Et donc, en fait, l'État islamique a recruté depuis le début, justement, chez ces déçus des talibans qui étaient navrés de ces compromissions, par exemple, que les talibans faisaient avec des gouvernements étrangers.
Donc, finalement, l'arrivée au pouvoir des talibans est peut-être plutôt une bonne chose pour l'État islamique en Afghanistan. Ou est-ce qu'au contraire, l'environnement sera plus hostile pour ce qui concerne la conquête de nouveaux territoires ?
Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que c'est plus facile pour le recrutement parce que l'État islamique peut récupérer des gens déçus des talibans et en même temps, effectivement, il va évoluer dans un environnement qui va peut-être être plus compliqué pour lui parce qu'il va faire face à son adversaire le plus difficile, entre guillemets, qui sont les talibans, qui sont ceux qui ont marqué, ont porté le plus de coups à l'État islamique en Afghanistan jusqu'ici.
Mais est-ce que les talibans sont vraiment aujourd'hui en mesure de combattre l'État islamique, et notamment une fois que les Américains se seront définitivement retirés ?
Alors ça va être difficile parce que les talibans vont avoir d'autres priorités dans les mois qui viennent. D'abord, il y a une résistance qui est quand même en train de s'organiser dans la vallée du Panjshir, et ça, les talibans, on voit bien que ça les préoccupe, hein, donc ils ont dirigé des effectifs pour essayer de l'éliminer au plus vite. Et puis, il va falloir que les talibans pratiquent entre guillemets du contre-terrorisme, c'est-à-dire il va falloir aller débusquer les cellules de l'État islamique à Kaboul, à Jalalabad, par exemple, et ça va être très très compliqué puisqu'on est face à un groupe qui opère dans la clandestinité dans ces villes-là depuis 5-6 ans, donc qui est bien enraciné, et ça va être très compliqué pour les talibans.
Merci beaucoup Matteo Paxton pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et spécialiste de la propagande militaire de l'État islamique. Toutes vos analyses sont à retrouver sur votre compte Twitter Historico-Blog. Merci également à vous Muriel Paradon, journaliste au service international de RFI. Vous étiez de retour de Syrie. On vous retrouve mercredi matin dans le Focus du jour. Retour en Syrie, le témoignage exclusif des épouses Klein. Et dès jeudi, on pourra découvrir votre grand reportage. Très belle soirée sur RFI. Priorité santé.